RMC. 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
C'est l'heure de prendre la parole avec les juges, avec les grandes gueules depuis 9h. Et jusqu'à midi, c'est le 32-16 qui est à votre disposition. Charles Consigny, l'avocat, est là, tout comme l'agriculteur Didier Giraud et Joël Dagosséry, la coach de vie. On va reparler de cette bagarre. C'est un enfant de 9 ans qui s'est retrouvé quasiment lynché par les joueurs de l'équipe adverse. Témoignage de son père, du père de Matteo, donc le gamin de 9 ans qui s'est retrouvé au sol et roué de coups.
J'étais à 10 mètres lors du coup de sifflet final. Je me suis retourné et là, je vois mon gamin recroquevillé. Ils étaient en train de taper dessus. Du coup, j'ai couru pour essayer de sauver mon fils parce que moi, je vois mon gamin mourir. Quoi. C'était pas des petits coups. Hein. Ils sont venus à 5. Ils l'ont agressé, mis au sol, coup de pied. On a dû appeler les pompiers ouais, parce que là, il y a encore un peu mal aux côtes. Il n'y a pas de fracture, il n'y a rien, mais il y a quand même des contusions sur le corps. Ça s'est passé tellement vite qu'on a été surpris, quoi, choqués. Quoi. Le jour où ça a eu lieu, c'était compliqué la nuit. Il s'est réveillé 3-4 fois en disant non, laissez-moi tranquille, laissez-moi, frappez-moi pas. Mon fils, il a que 9 ans. Eux, ils avaient entre 10 et 11 ans. À cet âge-là, si ça commence comme ça, s'il n'y a pas de sanctions, plus tard, ça va donner quoi. C'est pour ça, moi, je veux que ça fasse du bruit, cette histoire, parce que je veux pas que ça arrive encore dans d'autres villes où il faut pas qu'il y ait un enfant qui se fasse tuer pour que ça bouge.
C'est un enfant de 9 ans, donc Matteo, il est footballeur à Auchy-les-Mines dans le 62, c'est dans le Pas-de-Calais, et c'est à l'issue d'un match entre des 9-10 ans qui s'est retrouvé frappé au sol.
Oui, face à l'équipe de Creil qui venait de région parisienne, et donc c'est les certains joueurs de Creil qui ont frappé. C'est dans l'Oise.
Bah oui, mais.
C'est la grande région parisienne,
l'Oise. C'est la Picardie ou je ne sais quoi.
Oui, enfin c'est l'Oise.
Non, on ne peut pas nous mélanger, s'il te plaît.
C'est la grande, c'est la région, oui.
Ah oui,
c'est...
non, mais parce que après oui. ça débarque d'accord. sur la banlieue parisienne.
Ça
n'est
pas ta banlieue quand on dit région.
Non, mais non, bah oui, mais.
Non, mais bon. Voilà. C'est pas Saint-Ouen, mais c'est.
Géographiquement, enfin, il faut.
C'est pas très très loin non plus. Bon, bref, les nouvelles sont rassurantes déjà
bref,
pour l'état de santé de Matteo. Donc, ce que dit le père, c'est qu'en fait, Matteo, le match est terminé. C'est Creil en plus qui a gagné le match. Matteo, à ce moment-là, se fait bousculer au départ. Il y a une petite bousculade. Il a répondu, Matteo, et c'est à ce moment-là que les joueurs de Creil, enfin certains, lui ont tombé dessus. Et ça a été très rapide, une violence soudaine et très brutale parce qu'ils lui ont tapé sur la tête. Alors heureusement, ils sont bien sortis parce qu'il a 9 ans. Il souffre de contusions, mais il est choqué. Et le père, lui, il en veut beaucoup. Il en veut beaucoup. Tout d'abord, à l'éducateur de Creil. Qui n'est pas intervenu visiblement. Il dit on n'a pas vraiment eu d'excuses tout de suite, rien eu après. L'éducateur n'a pas voulu donner les noms des agresseurs au président du club de Matteo. Donc il dit il y a peut-être une espèce de complicité. Alors maintenant le club dit si on va regarder ce qui s'est passé, on va. Le problème c'est toujours faut mieux faire ça en flagrant délit. C'est toujours pareil après coup.
C'est pas moi.
Est-ce que les gamins vont dire voilà c'est pas moi c'est l'autre. Donc le père de Matteo dit il faut plus de réactions de la part des adultes. Sinon un jour effectivement il y aura un mort sur la pelouse.
Qu'est-ce que vous en pensez Joël?
Les réactions de la part des adultes, il faut voir des fois certains adultes au bord des terrains.
Hein. C'est ça,
beaucoup
problème.
De foot, mais pas qu'au foot. Moi, j'ai une fille qui fait du sport depuis toute petite. Elle a fait du foot un an et elle a voulu arrêter. Elle n'a pas trouvé l'ambiance, elle n'a pas aimé l'ambiance. Alors, il faut savoir, c'est un parc particulier. Donc, c'est une fille. Elle a fait 2 ans de hockey. Elle était la seule fille. Hockey sur glace, pardon. Elle était la seule fille. Elle est passée au foot. Elle était aussi la seule fille parce qu'il n'y avait pas d'équipe de filles à son âge. Elle avait 8 ans. Et c'est vrai que c'est pas une ambiance qu'elle a particulièrement aimée. Dès cet âge-là, elle a trouvé que on la traitait un peu différemment en tant que fille. Moi, en tant que parent, je l'accompagnais. C'est pas non plus autour du terrain. J'ai pas hyper aussi aimé l'ambiance. Je trouve que les parents étaient hyper investis. Enfin, c'est normal en tant que parent d'être investi, mais je l'ai trouvé investi au-delà du raisonnable pour des enfants de cet âge-là, comparé aux parents qui étaient hockey sur glace et comparé aux parents aussi que j'ai connus au handball. Et maintenant, elle fait du basket depuis plusieurs années. Donc, le comportement des parents, moi, j'ai pu assister à certains comportements, même au basketball d'ailleurs, où tu as des parents. Enfin, des fois, ils étaient à la limite en train de crier sur l'arbitre. À s'embrouiller, enfin c'était presque, c'était pas souvent, mais j'ai vu 2-3 fois à s'embrouiller, mais de manière assez virulente. Donc, Pour moi, des U10, parce que là, on parle de U10.
Oui, ils ont 9-10 ans.
Voilà, ouais. Ils ont 9-10 ans. Pour que des U10 soient déjà à ce point-là sur des terrains de foot, je me demande ce qui est véhiculé soit au sein du club, soit à la maison, en tant que parent. Parce qu'un enfant, il est le reflet, on a beau dire ce qu'on veut dire, à 9 ans, t'es le reflet de ton éducation,
là,
de ton environnement.
Fait, parce que là, on a des jeunes qui, sur le coup, n'ont pas été sanctionnés.
Ce qu'on fait, c'est que déjà, on arrête de traiter ça uniquement par des sanctions sportives, type carton rouge, sanctions disciplinaires, oui, suspension de match. Non,
ils n'ont même pas été sanctionnés puisqu'ils n'ont même pas été encore identifiés.
Oui, mais
visiblement, Creil n'a pas voulu donner les noms.
Les éducateurs doivent comprendre que c'est grave, c'est pas juste du sport, et ils doivent coopérer. Ils n'ont pas à soutenir ce genre de truc. Ils doivent immédiatement intervenir et coopérer avec le club adverse.
Didier, écoute, je suis comme Joël. Je pense que les enfants, c'est le reflet des adultes, et dans le sport collectif, il y a plein d'endroits où les adultes se comportent mal. Et d'abord les parents. Derrière ça, à cet âge-là, il y a des gens qui s'appellent les éducateurs. Ils sont là pour éduquer. Et quand il y a ce genre de comportement, je pense que le papa donc va certainement porter plainte. Donc je pense qu'il y aura des poursuites pénales contre les enfants qui ont agressé son fils.
Je pense que
l'éducateur doit avoir les mêmes sanctions, parce que l'éducateur, c'est lui le régulateur de ses joueurs, quoi. Et à un moment donné, ce qui peut différencier le rugby du foot, parce que ça existe aussi des problèmes au rugby, je vais pas dire qu'il y a pas de problème, c'est que les mecs qui sont identifiés comme des éducateurs qui crient sur les enfants, qui crient sur l'arbitre, ils se font foutre dehors, quoi. C'est dehors du stade, quoi. Et à un moment donné, c'est la discipline des autres qui sont sur le terrain qui doivent aussi agir, quoi. Un papa qui fout le bordel, il dégage, quoi.
Oui, ça va au-delà de ça. Là vous êtes sur des
choses.
Comme le dit Charles, il a parlé d'ensauvagement, donc ça va au-delà. C'est l'ensauvagement, tu le retrouves pas que sur un terrain de foot. Je suis désolé. Là, il y a quasiment toutes les semaines.
Si tu veux résoudre toute la violence de la société à travers un gamin de 9 ans, toi,
non,
vas-y.
Je suis désolé, mais je parle des gamins entre eux.
C'est pas de ça qu'on parle, quoi. Hein.
Mais si, c'est la même chose quand il y a des gamins qui se font rouer de coups ou poignarder dans des établissements, c'est exactement la même ensauvagement, et ça n'a rien à voir avec le foot. Donc ça va au-delà du foot et du problème des comportements.
Non, je suis pas d'accord avec toi.
Vous avez des pudeurs de gazelle,
oui.
Comme souvent sur ces sujets-là.
Bien sûr.
On est face à des jeunes racailles qui sont hélas racailles dès l'âge de 9 ans, qui commencent par se foutre sur la gueule sur les terrains de foot, qui, très longtemps après, font les guetteurs pour les trafiquants.
Oh là là.
Pas très longtemps après, se plantent des couteaux entre eux, entre bandes de jeunes. Il y a des morts, je le sais. Moi, j'ai eu beaucoup de dossiers comme ça, donc je
le
sais exactement.
Le lien entre foot, dealer,
il y a un lien direct. C'est de la violence de bande qui est malheureusement pratiquée dès des âges malheureusement beaucoup trop avancés. Oui.
C'est l'ensauvagement
d'une partie de notre jeunesse.
Ça, je peux l'entendre, Charles.
Désolé.
Sauf qu'il y a une différence quand ils sont sur un terrain de foot ou quand ils sont guetteurs. C'est quand ils sont guetteurs, il n'y a pas d'adultes.
Exactement.
Quand ils sont sur un terrain
exactement.
De foot, il y a des adultes
exactement.
Autour. Et le comportement des adultes autour d'un terrain de foot, il doit être exemplaire. Ouais. Et s'ils ne sont pas les adultes,
là,
on peut les sanctionner
exactement.
Pénalement.
Moi,
c'est la différence.
Moi, je fais pas ce lien entre un gamin qui a 9 ans et un gamin qui a 15 ans.
Peut-être qu'il existe
17,
ce lien.
Et qui commence et qui est guetteur. Non, parce que
ils sont pas guetteurs à 15 ans, ils sont guetteurs à 12. Hein.
Oui, d'accord. D'accord, oui. Sauf que là, on a affaire à des gamins qui sont encadrés normalement par des adultes.
On a bien vu
qui ont une pratique sportive. Donc qui sont encadrés par des parents et par des éducateurs. Donc moi, ce que je demande, je t'assure, j'ai appris ma fille sur des tournois. J'ai vu des éducateurs, des entraîneurs, des coachs crier. Mais quand je te dis crier sur des jeunes filles, c'est sur des jeunes ados de 12-13 ans. Et t'avais une partie des parents qui étaient même choqués. Donc il faut voir aussi à quels éducateurs tu as. Mais c'est marrant parce que vous détachez complètement les enfants de l'environnement des adultes.
Tu sais ce qu'a dit
les adultes n'existent pas.
D'accord, mais
les parents n'existent pas. Les éducateurs n'existent pas.
Qu'est-ce que j'ai dit? Au contraire, j'ai l'éducateur sur le très responsable.
Seul
sauvage. Mais tu sais ce qu'a dit l'éducateur? L'éducateur dit je donne pas les noms pour pas stigmatiser.
Non, c'est pas ça qu'il a dit.
Il a pas dit ça?
Parce que c'est Mathéo qui les a provoqués.
Oui, c'est vrai, il a
commencé par dire ça. Il a dit, je donne pas les noms parce que c'est Matteo qui les a provoqués. Mais c'est lui qui doit aller en taule. La plus lourde, c'est envers l'éducateur, hein. On dit pas la.
Donc c'est la faute, en gros, de Matteo s'il s'est fait taper dessus, quoi. C'est un peu comme si la cible avait une jupe trop courte, quoi.
C'est ce qu'a dit l'éducateur.
Et je pense que c'est lui qui doit être sanctionné.
C'est important, etc.
Mais bien sûr, il y a des gens aussi.
Olivier, je l'ai déjà dit à ce plateau, je peux le redire. Il y a des gens, ils sont pas faits pour être parents et il y a des gens, ils sont pas faits pour être éducateurs, quoi, hein. Et à un moment donné, il faut que l'institution, elle fasse le tri là-dedans aussi.
Jean-Luc veut réagir.
Les gens qui déconnent en tant qu'éducateur, qu'entraîneur, machin. Moi, j'ai déjà vu au rugby, c'est des jeunes qui arbitrent des jeunes. J'ai déjà vu des éducateurs de 40 ans gueuler sur un arbitre de 15 ans. Parce qu'il arbitre des 10 ans. Ça. Ce mec-là, il doit être sanctionné, voilà. Et régulièrement, rugby, il l'est.
Ouais.
On a Jean-Luc qui est.
Mais bien sûr, il est toujours coach de boxe,
il veut réagir.
9 ans, oui,
Jean-Luc,
c'est
bonjour.
Toujours la faute des éducateurs, des bonjour. Parents ou des éducateurs.
Pas des enfants eux-mêmes. S'il vous plaît, qu'on écoute le témoignage Jean-Luc, parce qu'il vous est arrivé une mésaventure, vous aussi. C'est votre fils qui s'est retrouvé témoin d'une bagarre de coach, lui.
Alors, voilà, ça se passe. Donc, mon fils joue en U12 actuellement à Saint-Cloud, pour ne pas le citer. Ouais. Et donc, ils ont commencé le foot à 11 cette année. Et donc, le match se passait très très bien. Jusqu'à la. Ils jouent 25 minutes, 30 minutes aujourd'hui en U12 sur le grand terrain. Et il n'y avait pas d'arbitre officiel. Hein, donc, c'est un éducateur qui arbitrait. Et il y a eu une faute sifflée en notre faveur. Et pourquoi? Je ne sais pas. Ça se passait très bien jusqu'à ce moment-là. Et l'éducateur adverse est arrivé vers le coach, vers notre coach. Et notre coach lui a dit: écoute, moi, gentiment, tu me fais suer. Et le coach lui a mis tout de suite, gentiment, gratuitement, un coup de poing dans la figure. Ouais. Donc, à l'issue de ça, effectivement, il y a eu un regroupement. Les joueurs ont été évacués, nos joueurs et les autres joueurs ont été évacués. Nous, on est arrivé sur le terrain, on a séparé tout le monde. Et on a laissé nos enfants à l'abri des coups. Donc, on les a laissés pendant un quart d'heure sur le terrain. On a laissé rentrer les joueurs U12 de l'ANR tranquillement dans le vestiaire pour que tout soit calme. Et... au bout d'un quart d'heure, donc l'équipe de Saint-Cloud, donc l'équipe de mon fils est rentrée dans le vestiaire et il a été après apparti tout de suite par les enfants, lui disant il a été pris par le coup, il dit on va tuer, on va t'égorger. Donc heureusement, mon fils, moi, il a pris peur. Heureusement qu'il y a deux copains à lui qui sont arrivés, ils ont séparé les garçons. Mais c'est vraiment incroyable, quoi. Franchement, mon fils, il avait subi ça comme un traumatisme. Et il n'y a pas malheureusement, ça arrive régulièrement.
À la base, c'est d'abord les adultes qui se conduisent mal.
Oui, non, mais je suis d'accord, mais c'est un adulte du club adverse qui s'est comporté mal. L'autre coach, il n'a rien fait, il n'a pas donné de coup, il a pris le coup simplement. Et on n'a pas compris pourquoi. Et aujourd'hui, c'est la violence, c'est aussi les parents qui la font. Parce que les violents, moi, je les vois tous les week-ends, mon fils joue au foot. Et les parents, le comportement des parents, il n'est pas du tout adapté à ce sport ou à un autre sport. Parce que moi, je suis dans la boxe. Donc, il y a moins de violence aujourd'hui, comparativement, dans la boxe que dans le foot. Parce que le foot, c'est malheureusement l'image de la société aujourd'hui. Les gens viennent, dans un match de foot, se défouler.
Et voyez, ce qui est terrible, Jean-Luc, vous avez raison. Et quand vous voyez un grand club comme le Real Madrid, voilà, avec des bagarres entre joueurs stars, qui se terminent par un traumatisme crânien où on se met des coups de poing et
l'exemple
coups de pied.
Aussi des stars.
Donc l'exemple, effectivement, il ne vient pas d'en haut, Jean-Luc. Hein.
Je suis d'accord avec vous, ça devrait pas arriver parce qu'en même temps, un match de foot, ça reste un match de foot. Ça reste un moment de partage. C'est des moments de partage parce qu'on partage le même sport.
Là, ce qui est terrible, c'est qu'ils se battent sur le terrain comme ils se battraient dans la rue au pied d'un immeuble.
Ça a toujours existé les bagarres, pardon, mais on a été mauvais. Oui, ça a toujours existé les bagarres. La différence, c'est qu'aujourd'hui, c'est particulièrement violent puisque c'est un lynchage. C'est-à-dire que très vite, ça a duré quelques secondes. Il s'est fait défoncer la tête à coups de pied quand même. Ça n'existait pas, ça, avant. C'était des bagarres entre deux gamins.
Les bagarres à 9 ans.
Donc, l'ensauvagement est un terme qui semble pas complètement.
Il y a quelques semaines, Dans une interview, d'ailleurs je crois que c'est dans le podcast de Chouameni, qui expliquait qu'il n'y avait pas de projet Mbappé. D'accord, parce que t'as des parents pendant des années qui ont fantasmé sur le fait que le père de Kylian Mbappé avait un projet Mbappé et donc qui ont déversé ça sur leurs enfants. Leur enfant est devenu leur projet Mbappé. Il a expliqué qu'il y avait pas de projet Mbappé, que son père avait juste accompagné un enfant qui était déjà passionné et qui avait pas fait un projet autour de lui. Mais il faut dire que le foot quelque part est devenu ça. C'est pour ça qu'à 9 ans, à 7 ans, tu as des parents qui sont hyper excités autour des terrains. C'est parce que l'enfant est devenu un investissement. Le foot est devenu un endroit où la méritocratie peut au moins s'exercer. Et on va faire un rapport avec l'OCDE qui a bien dit que la France était l'un des pays où le déterminisme était le plus élevé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'as du mal à t'élever socialement à travers le travail classique, à travers les études. Et le foot, c'est un truc un peu miracle. Tu te dis, si mon enfant est bon, s'il est bon, là il va être repéré et là il va monter. Et s'il monte, bah oui, et c'est un foot, c'est un sport où il y a énormément d'argent. Donc faut pas oublier.
Pourquoi tu mets au sol un gamin de 9 ans et tu lui tapes dans la tête?
Mais ça, je sais bien, mais c'est toute la tension qu'il y a autour.
Il y a la violence, d'une manière générale.
Oui, il y a une violence. Oui, mais
chez certains jeunes, bien sûr, on va pas généraliser. Chez certains jeunes, même violence quand on voit que des mômes se font lyncher sur le trottoir pour des motifs futiles, comme on voit des mômes se faire poignarder pour des motifs futiles. Il y a une violence chez certains jeunes à base de mauvaise gestion de la frustration. Et donc, pour ça, je dis que ça dépasse le foot. On peut pas.
Merci Jean-Luc d'avoir été avec nous. Merci Jean-Luc de votre témoignage. En un instant, on écoutera Jonathan. Jonathan qui est du côté du Loiret. Il est éducateur. Éducateur en catégorie moins de 12 ans et moins de 14 ans. Donc, il va nous expliquer ce qu'il voit auprès des jeunes. Donc, l'exemple de Mathéo.
Il paraît qu'il a deux gardes du corps.
Qui s'est fait tabasser à la sortie d'un match. Alors, ce qui est dingue, c'est qu'on dit qu'il... Je sais pas, c'est lui qui aurait provoqué les autres joueurs. Enfin, dans tous les cas, il s'est retrouvé au sol. Il s'est fait taper dans la tête. Il a dû être évacué par les pompiers. Alors, il va garder des séquelles psychologiques surtout. Comment est-ce qu'on en arrive là? 9 ans, hein, je le répète, 10h20, vous prenez la parole avec les GG.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
La parole avec les GG pour commenter ce qui est arrivé à ce gamin, à Mathéo, 9 ans, là, qui s'est fait tabasser à la sortie d'un match durant le week-end. Jonathan est avec nous, il est du Loiret. Bonjour Jonathan.
Bonjour les GG.
Et merci d'avoir patienté. Bonjour, vous êtes éducateur, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire terrible?
C'est dramatique, malheureusement. Je pense qu'on le voit un peu plus dans le foot, un petit peu moins encore dans le rugby, mais ça arrive dans le rugby, malheureusement. Moi, j'encadre principalement les moins de 12 et un peu les moins de 14, mais je m'occupe aussi des moins de 8 et des moins de 10 de temps en temps. Parce que mon fils joue en moins de 8, mais on le voit, mais c'est pas forcément les gamins. Alors, il y a des gamins qui ont un fort caractère, c'est sûr, mais c'est surtout les éducateurs. On les entend sur le bord du terrain. On en entend certains dire, moi je l'ai entendu, hein, ma femme l'a entendu parce qu'elle nous suit sur les tournois. On les entend dire, bah eux, vous les broyez, vous les démontez, c'est pas vos potes, vous tapez dans les genoux. Voilà, il y a un tournoi.
Ils sont éducateurs, c'est-à-dire qu'ils ont. Comment on devient éducateur? Mais comment on devient éducateur? C'est ça la question.
On a une formation sur un an, deux ans, trois ans, enfin, en tout cas dans le rugby. Un an, deux ans, trois ans, et puis on a des séances d'études de match, tout ça, sur le comportement, sur les droits et les devoirs de l'éducateur aussi, parce que c'est important, on a des droits, mais on a aussi des devoirs. Après, ce que disait Didier tout à l'heure, lorsqu'on entend un éducateur, il faut en référer au référent sur le tournoi, et en règle générale, il est sanctionné, soit il est dégagé du tournoi, soit il y a une sanction auprès du club, tout simplement.
Oui, d'accord, Jonathan.
Ce que vous décrivez, c'est le système où le rugby essaie de faire le ménage dans ses éducateurs, quoi. Et c'est pas le cas dans tous les sports, quoi.
On essaie de faire du ménage, mais c'est pas forcément évident, puisque certains ne disent rien, ou alors c'est dit très calmement, donc très bas, et il faut avoir une oreille
attendue. Et puis il y a quand même une crise de vocation du bénévolat aussi, parce que les éducateurs sont bénévoles.
Le bénévolat, on est en crise totale dans les petits clubs, c'est le bénévolat.
C'est aussi ça le problème.
Et on comprend aussi que certains ne veulent pas faire de bénévolat pour éviter de se... Alors, c'est extrême, hein, de se faire taper dessus, mais en tout cas de se faire insulter, de se faire envoyer balader, parce que le droit à l'erreur, a priori, pour certains, le droit à l'erreur n'existe pas. Vous parliez des jeunes arbitres. Nous, on a une jeune arbitre qui a 15 ans, je crois, de mémoire, qui arbitre régulièrement des matchs. Elle est très bonne en tant qu'arbitre. Malgré tout, il arrive parfois qu'elle se fasse insulter, qu'elle se fasse malmener par le...
Le fait qu'elle soit une femme, ça ne doit pas aider non plus.
Non, ça n'a rien à voir.
On reconnaît sa compétence quand même.
Les jeunes filles et les jeunes femmes dans le rugby sont très bien accueillies. Moi, j'ai trois gamines au total dans les équipes. Et franchement, elles sont super bien intégrées.
Oui, mais enfin, Jonathan.
Mais c'est les adultes.
C'est les oui, d'accord, mais ce qui interpelle, là, c'est qu'à la fin du match, ces gamins, bon, à K9, 10 ans, on se chamaille, on se provoque,
après,
d'accord.
À la fin d'un match.
Mais quand même, à la fin d'un match, alors que visiblement le match a été plié par l'équipe, donc ce sont les victorieux qui tombent sur le petit Matteo Siwa.
Oui, mais encore une
à
fois,
plusieurs, à plusieurs contre un et au sol, il lui tape dans la tête. Donc oui, ils reproduisent un schéma. Alors la question, c'est de savoir d'où vient ce schéma, quoi, Jonathan.
Les adultes, ouais. Combien de fois vous avez vu des matchs dégénérer chez les adultes? On parle de seniors, hein. Chez les adultes, combien de matchs ont dégénéré? Parce que
avant c'était une bagarre, c'était un contre un, c'était pas un contre 10 et on le tape sur la tête. C'est comme ça.
Non, on le voit régulièrement sur les terrains de foot amateurs, qu'il y en a un qui est pris à partie par 2, 3, 4 mecs, ils lui sautent dessus, coups de poing et autres. Et tout ça, c'est du visuel. Les gamins, ils vont voir les matchs amateurs, et ben ils le voient, ils reproduisent.
C'est les jeux vidéo aussi.
Il y
a ça aussi, parce que souvent dans les jeux vidéo, ça tape dans la zone.
Tu as un peu une sorte de code d'honneur, c'est un contre un, etc. Je pense qu'il y a plus cette distinction de nos jours. Un gamin, quand il a 9 ans, il a plusieurs exemples. Il y a des hiérarchies d'exemples. T'as les parents, bien sûr, t'as l'éducateur, t'as ses grands frères, t'as les gens de son quartier, t'as plein d'influences sur un gamin de 9 ans. C'est pour ça que je dis dire juste, ouais, c'est le gamin de 9 ans et c'est lui, machin, c'est non. Là, sur la victoire du PSG, donc un gamin qui a 9 ans, qui joue au foot, qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il a comme image qui entoure son sport? Il a déjà, oui, son propre terrain, des affrontements à la victoire. Oui, on a vu des jeunes qui ont agressé une jeune fille qui avait un maillot du Bayern. Exactement. Donc tout ça, en fait, le gamin, pour lui, le foot, oui, c'est du jeu, etc. Mais il y a tout un environnement, une atmosphère qui entoure ce sport. Et c'est tout ça qu'il faut régler. Il ne faut pas juste aller dire, ouais, c'est le gamin de 9 ans, on va lui taper dessus, c'est un sauvage, etc. C'est toute l'atmosphère autour du sport qu'il faut régler. Le comportement des supporters en cas de défaite, mais aussi en cas de victoire. Enfin, il y a un gros ménage à faire dans le sport. Hein.
Merci à Jonathan d'avoir été avec nous. Je vous en prie, allez-y.
Au niveau du rugby, la différence entre le rugby et le foot, les supporters sont parqués par équipe. Au rugby, ils sont tous mélangés. J'ai emmené mon fils voir à l'Accor Arena la défense, le Racing 92 contre l'UBB. On a pu discuter avec les supporters de l'UBB. Mais on a super bien discuté, on a super bien échangé. On s'est pas foutu sur la gueule. Vous voyez ce que je veux dire?
Non, mais c'est mais
la différence, elle est là aussi.
Vous voyez, moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire aujourd'hui. Je lisais, c'est une proposition, là, je voyais sur les réseaux sociaux. C'est que les éducateurs, ou avant les matchs comme ça, des jeunes, fassent rencontrer les deux équipes. Tu vois, qu'ils ne soient pas chacun de leur côté, et qu'ils fassent discuter les deux jeunes, les deux équipes pendant un quart d'heure, en leur disant, voilà, bon match, etc., tapez-vous dans les mains, et tout. Et peut-être que ça permettrait de désamorcer un peu. Je sais pas, c'est une proposition, pourquoi pas. Jonathan, on a Yann qui veut intervenir, et du côté de Gironde. Bonjour Yann.
Oui, bonjour l'équipe.
Vous voulez réagir en tant qu'ancien joueur de foot professionnel d'ailleurs, hein, Yann.
Ouais, tout d'abord, déjà, parce que le football, j'aime ça vraiment, vraiment, mais j'en suis quasiment dégoûté. Moi, j'ai mon fils, le grand, qui a arrêté le football, qui n'était jetable. Ça n'arrive pas. C'est de l'auto-arbitrage jusqu'en national. Ils s'arbitrent entre eux. Ouais. Il n'y a jamais, je dis bien jamais, eu un problème. Mmh. Même un parent, un exemple, qui dit « Oh, mais il y a faute ». Non, le gamin lui dit à son papa « Non, il n'y a pas faute ». Et il continue à jouer. C'est les parents autour, c'est toujours, toujours le même bordel.
Bien sûr.
Toujours. Hier, j'étais voir mon plus petit qui joue un match. Il se passe un fait de jeu, l'arbitre se loupe pas, c'est un gamin d'arbitre qui avait 15 ans, pas plus, l'éducateur adverse est rentré sur le terrain pour lui expliquer que c'était pas bien, qu'il avait fait une faute. Comment vous voulez faire, à la fin du match, bien sûr, quand l'éducateur, ici, ça s'est terminé, il est rentré sur le terrain, les gamins ont sauté sur l'arbitre, un gamin de 15 ans, ils ont sauté sur un gamin de 15 ans pour lui expliquer ce qu'il fallait faire. Et ça a continué jusque dans les vestiaires. Et moi, bien sûr, comme bon parent, moi, je m'éloigne des parents qui sont des fous furieux. Et nous, en Gironde, l'année dernière, on a un gamin du propre club qui est mort. Par rapport à l'accident sur fait de jeu, il est mort. Il est mort sur un fait. Et derrière, on a fait tout un foin. Et les parents continuent au bord du terrain alors qu'ils étaient présents à ce tournoi. Ils continuent à dire des choses au bord du terrain, mais qui ne sont pas entendues. On ne peut pas les entendre. Ce n'est pas possible.
Je l'appelle, je dis
tu te mets à l'écart de suite. Et il comprend pas, tu te mets à l'écart et tu rentres au vestiaire. C'est pas possible d'en arriver là.
ce n'est pas possible.
Vous êtes un ancien joueur pro, c'est ça?
Ouais.
Vous avez joué au Girondin?
Je suis passé par les Girondins, ouais.
On essaie de trouver votre nom, c'est pour ça.
Non mais du coup, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi un problème d'exemplarité dans le foot?
C'est ce que je voulais poser comme question. Quand on voit à la télé
comment ils parlent à l'arbitre,
parfois des joueurs pros qui se comportent mal, quand on apprend effectivement que dans le vestiaire du Real, deux joueurs se sont tapés dessus, qu'est-ce que vous en pensez?
Ah, moi je pense que c'est deux choses différentes. Parce que le monde professionnel, c'est une chose, mais quand vous avez votre fils qui part jouer le dimanche matin ou le dimanche après une soirée, c'est pas la même chose. Il vient, il s'entraîne le mercredi après-midi, le vendredi soir, gentiment avec ses copains. Il rentre toute la journée, lui, il doit être à l'école et être éduqué par ses parents. Il va faire du sport. Et s'il a la journée une chance d'avoir un contrat, tant mieux. Tant mieux. S'il est très, très fort et qu'il est repéré, tant mieux. Mais avant ça, il y a quand même un paquet d'étapes avant ça. Et l'éducation, ça passe par là. Parce que si les joueurs sont pas éduqués, j'ai du mal qu'ils puissent avoir des signés professionnels et avoir une belle carrière. Déjà.
Merci Yann de ce dernier témoignage. Merci d'avoir été avec nous. Je vous remercie à tous là d'avoir pris la parole, Jonathan, Jean-Luc, Yann, à propos de ce qui s'est passé. On verra quelles suites judiciaires aussi vont être données à cette histoire. Dans un instant, on va changer radicalement de sujet. On va s'intéresser à l'idée de travailler une demi-journée en plus. C'est une proposition de Jean-François Copé, travailler une demi-journée en plus par semaine, totalement exonéré de charges. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas?
Alors en fait, depuis l'instauration des 35 heures, et on s'est aperçu que c'était pas forcément une très bonne idée. Alors aujourd'hui, tout le monde dit il faut travailler plus en France. Alors depuis l'instauration des 35 heures, on tourne autour du pot, c'est-à-dire on invente des systèmes pour essayer de, non pas de dire officiellement on arrête avec les 35 heures, mais quand même, il faudrait que les Français travaillent plus. Alors, Nicolas Sarkozy avait inventé les heures sup défiscalisées. Et là, Jean-François Copé nous dit, il faudrait travailler une demi-journée de plus. Et pour que ça soit quand même un peu attractif, il dit, ça serait totalement exonéré de charges sociales. Donc, il y aurait peu de différence entre le brut et le net sur cette demi-journée. Mais alors, si on voit concrètement les choses, la demi-journée, bon, déjà, les Français, s'ils travaillent du lundi au vendredi, quand est-ce qu'on fait cette demi-journée en plus? Donc, ce que je comprends bien, c'est une heure de plus chaque jour. Donc, ça fait 4 heures. Une demi-journée, c'est 4 heures de plus. Donc, 4 heures, ça fait quoi? Ça fait 39 heures par semaine. Donc, en fait, Jean-François Copé, au lieu de nous dire, arrêtons avec les 35 heures, non 39, il invente une espèce de truc de demi-journée, difficilement compréhensible, parce que les gens doivent se dire, mais où est-ce que j'accale ma demi-journée?
Joël Dagosséry.
Non, mais là, il touche à deux trucs. Donc, le temps de travail, si on veut travailler plus, produire plus, ok, bah alors passons à 39, comme tu as dit. On arrête avec ce 35 heures où tu as des dérogations partout, tu sais plus quoi en faire. Donc, allons à 39.
Il y a plus personne.
Et puis, il aborde le sujet, il accole à ça une exonération de charges. Donc, il reconnaît là qu'on a un problème sur les charges. Donc, c'est marrant parce qu'en fait, ils reconnaissent tous le problème, oui, comme ça. Et puis, par contre, ils y touchent du bout des doigts. Mmh. Alors, attention, on fait juste 4 heures, on va saupoudrer comme ça au long de la semaine. Et puis, exonération de charges uniquement sur ces 4 heures-là. Mais attends, mais tu les fais sauter, les exonérations. C'est sur toutes les heures. Hop, ça saute. Ou alors, en tout cas, peut-être pas en totalité,
mais tu
baisses drastiquement. Faut arrêter d'avoir peur et de toucher du bout des doigts.
Donc, monsieur Copé, un peu plus de courage.
Oui, un peu plus de courage. Et c'est pour ça que je te dis que ces gens-là ne sont pas prêts à gouverner et en tout cas à sortir de la France de son marasme. Parce qu'en fait, ils veulent faire des choses du bout des doigts. Faut pas toucher à
grand
chose. Il faut faire semblant.
C'est pourquoi?
Semblant.
C'est la trouille politique. Tu sais pourquoi, Joël?
Mais non, je sais pas
parce
pourquoi.
Parce que quand tu touches à ces choses-là, à ces choses-là.
D'accord.
Le temps de travail, les charges sociales et donc la redistribution, c'est ce qui se passe. Il y a tous les syndicats dans la rue. La France, elle est bloquée, quoi. Hein. On sait comment ça se passe. Et à un moment donné, il y a personne qui a du courage aujourd'hui, parce que si tu dis, on va remettre la France au boulot, en gros, ce que tu dis, hein, on va remettre la France au boulot 39 heures, parce que déjà des gens à 35, il y en a plus beaucoup. Il y a ceux qui sont à 32, et puis ceux qui sont à 60. Mais des à 35, j'en connais pas beaucoup. Et derrière ça, qui dit baisser les charges sociales, dit toucher à la redistribution, et ben si tu fais ces deux propositions là, t'es sûr de jamais être élu. Parce que on est dans un pays où les gens ils pensent qu'à une chose, c'est qu'arrive le vendredi midi pour partir en week-end. Voilà, il y a plus que ça qui compte.
Moi,
donc à un moment donné, je pense que si
il a l'idée au fond de s'attaquer à ce problème-là, il est obligé d'y aller avec des pincées de sel parce que tu vas foutre le pays en révolution.
D'accord avec toi, mais je veux dire avant de s'attarder sur la redistribution, ce serait bien qu'il y ait un peu de distribution.
Charles,
déjà.
Je suis d'accord avec cette toi. Proposition, Charles, de Jean-François Copé qui semble se rapprocher de plus en plus d'Édouard Philippe.
Hein. Ouais. Non mais la France est folle. C'est-à-dire que dès qu'il est question de travail, oulala, alors on va essayer de travailler peut-être une demi-journée en plus, qu'est-ce que vous en pensez? Et alors on va le faire sans charge, on n'arrive plus. Ça devient presque interdit de travailler en France. C'est ça qui devient dingue.
Ça l'est.
Ça l'est. Regarde, effectivement,
le
parfois.
Le 1er mai pour un boulanger, c'est compliqué.
On sait qu'on est un pays qui ne travaille pas assez. C'est bon, on l'a compris. Tous les économistes nous le disent. Il y a vraiment plus que Thomas Piketty et Arlette Laguiller qui sont pas d'accord. Sinon, Gabriel tout le monde est d'accord Zuckmann. Globalement. Hein, pardon.
Et Gabriel Zucman.
Et Gabriel Zucman.
Il y a Madame Binet aussi.
Un idéologue. Grave, mais sinon bon, tout le monde a compris le problème en même temps bon bah c'est vraiment quasiment interdit quoi. C'est-à-dire que si vous travaillez, alors si vous êtes salarié, oulala, faut qu'on vérifie que vous êtes vraiment dans le bon horaire. Est-ce que vous n'avez pas dépassé de 5 minutes? Gare à l'employeur qui fait dépasser de 5 minutes à son employé parce qu'il pourra produire le mail envoyé à 18h02 devant le conseil de prud'homme. Et là, bam, l'entreprise, elle se prend 10 mois de salaire, de 150 000 euros pour discrimination, etc., etc. Et quand vous êtes un indépendant, ou un chef d'entreprise, ou que sais-je, si vous travaillez un peu plus, un peu trop, là, pareil, bam, c'est l'État qui vient tout vous prendre. Ah, là, vous avez fait X euros, donc là, c'est 70% hein, maintenant.
Et regardez là, rire du fisc.
Regardez ce week-end, je lisais le Monde, hein, naturellement, comme chaque week-end, et qu'est-ce, oulala. Les entreprises, malgré la crise, font des super profits. Ouh là 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 là. Donc là, maintenant, ça y est, faire des profits, c'est devenu là encore.
C'est un acte de délinquance.
Là, c'est devenu un acte de délinquance. Vite, 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 la taxe, la saisie, l'audit. Est-ce que vous n'êtes pas un profiteur de guerre? Vous avez bénéficié de la hausse du cours du pétrole. Donc c'est franchement, on est dans une névrose collective sur la question du travail qui est incroyable. Je pense que, par exemple, pour les Américains. Ils doivent nous voir, mais là, je sais pas si ils disclosent en ce moment des trucs sur les ovnis. Je pense qu'on est des martiens pour les Américains. Honnêtement, on est dingue. Il faut qu'on arrête avec ça. Donc, la proposition du jeune Copé, elle est sympa, etc. Mais c'est très en dessous de ce qu'il faut faire. Moi, je pense qu'on doit faire une révolution culturelle sur la question du travail et y aller très, très franchement sur les allègements de charges, de taxes, de tout ça. Faut vraiment donner de l'air. C'est pas une petite demi-journée qui changera
la donne. Les grandes gueules ont lancé la discussion. Vous pouvez nous rejoindre maintenant, parce qu'il y a encore d'autres arguments à développer. On a Samir dans un instant, il sera avec nous du côté d'Ille-et-Vilaine. Il est employé dans la fonction publique, on va voir comment il réagit. Donc prêt à travailler une demi-journée en plus par semaine, en fait, bref, ce serait revenir, c'est la proposition de Jean-François Copé, en faisant le calcul, effectivement, c'est revenir aux 39 heures. 32-16 pour le dire au GG, il est 11h-20.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.
Avant de reprendre le fil de notre discussion, là, si vous nous suivez encore sur RMC, je regardais sur l'appli RMC, sur le WhatsApp, sur l'appli Direct Studio, toutes les réactions qui arrivent à propos de ce qui est arrivé à Matteo, vous savez, ce gamin de 9 ans qui a été lynché en marge d'un match de foot. Sur les réactions qui sont arrivées sur l'appli et l'onglet Direct Studio, il y a Olivier qui nous dit « Moi, vous savez ce qui était arrivé à ma fille ? Elle s'est retrouvée attachée à un arbre. Ça aussi, c'est une véritable agression. J'ai Frédéric qui dit « Quand on voit Tchouaméni et Valverde aussi au Real Madrid, eh bien, il ne faut pas s'étonner que les gamins ensuite partent en sucette. » C'est Frédéric d'ici les Moulineaux qui nous l'écrit. J'ai Yann qui, lui, s'insurge aussi en disant « Vous dites que c'est un problème de violence d'atmosphère qui est donnée par les éducateurs. Pas que, m'écrit-il. Il faut regarder aussi dans quel milieu baignent ces enfants, ce qu'ils regardent comme jeux vidéo, quel est leur milieu familial aussi ou social. » Voilà quelques-unes des réactions. Et puis, on a l'Amir qui, lui, s'interroge et se demande quelles seront les sanctions pour ces jeunes de 9 ans, quelles seront les sanctions aussi pour les éducateurs.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Vous êtes avec les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. Vous venez continuer de débattre avec nous, notamment de cette proposition de Jean-François Copé qui veut faire travailler une demi-journée de plus par semaine, totalement exonéré de charges sociales. Samir, bonjour.
Oui, bonjour tout le monde.
Ça va ? Bienvenue. Qu'est-ce que vous en dites, Samir ?
Bah moi, ce que je disais hors antenne, enfin, je sais plus comment ça s'appelle à Quentin. Ouais. En fait, moi, je suis là, je retourne dans la fonction publique. J'étais VTC, donc je repars parce qu'à la base j'étais fonctionnaire, donc je repars, je réintègre la fonction publique.
Ah oui.
Et moi, je suis déjà annualisé à 39 heures. Ma femme, elle est à la sécurité sociale, elle est annualisée à 39
heures. C'était vu à Rennes, Samir.
Exactement.
Vous étiez VTC, je sais, on vous a eu souvent au téléphone, et vous lâchiez votre boulot pour repartir dans la fonction publique.
Ouais, j'en ai marre. L'État, il nous prend trop, là. L'État nous prend la gorge.
L'éternel problème.
Et donc, je repars là. Donc, je suis détaché au ministère des Armées. Et moi, en fait, en soi, ça ne me dérange pas. Je fais mes 39 heures annualisées. J'ai quelques RTT. Mais en gros, je suis payé 1007. Ma femme, elle est payée 1450 euros, 39 heures à la sécurité sociale. Elle le fait, elle, parce que c'est plus pour les enfants. C'est des bons horaires pour gérer les gamins et tout. Mais en gros, une demi-journée, ça va nous rapporter quoi ?
Ouais.
Augmenter un peu de salaire, je sais pas. Des fois, en fait, quand j'écoute un peu les politiques, j'ai envie de leur dire, mais non, on s'en fout de travailler plus. C'est pas le travail qui nous fait peur. Hein. On a
ce qui est dingue, c'est votre changement de vie, parce que je me souviens, on avait discuté à la FNAC de Rennes quand vous étiez venu nous voir. On avait discuté de votre travail justement de VTC. Et là, vous dites, j'arrête parce qu'on nous prend trop, quoi, en fait.
Malheureusement, trop concurrentiel. Ça veut dire, c'est vraiment ce métier-là. Et en fait, on dirait, il y a pas de réglementation. C'est tout le monde vient faire ce métier. Ils ont vu de la lumière. Pareil, à la base, j'étais conducteur de car aussi en extra. On coûte trop cher pour les autocaristes, donc en fait ils vont toujours chercher au rabais, chercher au moins cher, mais à un moment donné
en vous écoutant, Samir, un vrai problème en France, c'est-à-dire qu'on décourage le travail, puisque à la fois on décourage le travail et on paupérise les travailleurs, c'est-à-dire qu'on a une France qui va travailler entre 1500 et 2000 et 2002 et avec peu de perspectives d'évolution de salaire, accablée d'impôts, avec des charges qui augmentent, des charges fixes qui augmentent, en plus en ce moment avec le carburant, les prévisions en plus ne sont pas bonnes, hein. Vous avez vu les prévisions de croissance, donc le budget le cornu, il est déjà mort. C'est 5% de déficit, ils sont déjà morts. Enfin bref, il n'y a pas beaucoup de perspectives.
Alors,
il va falloir que les candidats fassent preuve d'imagination.
Et si ceux qui se font trop taxer deviennent tous fonctionnaires, il va y avoir un problème à la fin.
Hein. Tu voulais réagir à cette reconversion de Samir.
Ouais, je suis vraiment émue par la reconversion de Samir. Parce que déjà, on voit que Samir, il cherche vraiment à travailler, quoi. Il est passé VTC, il a fait chauffeur de car, c'est ça, Samir ?
Chauffeur de car, ouais.
Et maintenant, fonctionnaire. Moi, à titre personnel, en tant qu'indépendante, je vous raconte pas le nombre de fois où je me suis dit que j'allais repartir salariée. J'étais vraiment à deux doigts. Le nombre de fois où je me suis dit, mais en fait, ça sert à quoi ? C'est pas une vie, en fait. C'est pas une vie. Il faut repart salarié. Et ça fait 5 ans que je tiens et j'espère tenir encore. Mais je suis émue parce que Samir, il a décidé, lui, de vivre de lui-même, en gros. Et l'État le fait tellement chier qu'il repart travailler pour l'État. Donc, redépendre, entre guillemets, du service public, de l'argent public. Donc,
sécurité.
Tu vois, même que si tu voulais te sortir de ça, l'État te tient tellement fort qu'il te ramène vers lui. Donc, franchement, déjà, force à vous, Samir, franchement. Et je sais même pas comment l'État peut supporter ça, parce que il aurait pu créer de la richesse tranquille sans dépendre de l'argent public, quoi.
Merci Samir, et puis vous nous tiendrez au courant au fur et à mesure de vos appels avec les GG, avec les grandes gueules de l'Ille-et-Vilaine. On va revenir sur la Marne avec quelqu'un qu'on connaît bien aussi, Florian. Bonjour Florian.
Bonjour les GG, vous allez bien?
Ouais, viticulteur Florian, qu'est-ce que vous en dites, vous, alors de cette proposition de Jean-François Copé?
Moi, j'étais pour le passage, le retour à 40 heures, parce que j'ai... On a un SMIC qui a un peu plus de 11 euros de l'heure, et 40 heures, ça ferait 5 heures par semaine, ça fait 20 heures dans le mois, c'est 220 euros pour un SMICard de revenus en plus, et dans ce cas-là, net. Donc je pense que c'est une bonne idée, et puis, alors sur le terrain, ça va pas forcément changer les choses, parce qu'on peut déjà se sortir des 35 heures avec les heures sup, mais je pense que c'est important d'entrer dans les têtes qu'il faut travailler plus et qu'une semaine de travail, c'est 40 heures. C'est libre à vous, après, d'assumer de prendre un temps partiel et de gagner un petit peu moins, ou de gagner, ouais, mais... gagner aujourd'hui.
Florian, il y a quelque chose qui cloche dans la proposition de Copé. Il dit que la contrepartie de travailler plus, c'est d'exonérer les charges sociales. Mais les gens qui sont smicards, des charges sociales, il y en a plus déjà. Au SMIC, il n'y a plus de charges sociales. Donc à un moment donné, aujourd'hui, je ne vois pas en quoi il y a une contrepartie à cette proposition. Il faut juste que sur l'ensemble du travail, globalement, on rapproche le brut et le net, et puis après, les gens, ils vont aller travailler plus,
s'ils gagnent plus. La contrepartie, excusez-moi, la contrepartie, c'est de payer moins de charges sur le temps de travail supplémentaire. Donc en absolu... Ça reviendra au même, on va dire, pour l'employeur, mis à part qu'il devra payer les charges sur le salaire, enfin le temps de travail en plus. Mais par contre, pour l'État en absolu, ça sera le même revenu, enfin la même recette.
Rien à l'État. Je suis d'accord avec Florian. Où est-ce que vous êtes viticulteur dans la Marne?
Champagne.
En Champagne. Champagne. Bon, ça va en Champagne. Ça, vous pouvez les payer les 40 heures.
mais on a des avantages.
On pourrait admettre pour une fois qu'on a fait tout simplement une connerie, ouais, que ces 35 heures, par quelques bouts qu'on les prenne, en fait, c'était une connerie de Strauss-Kahn, Martine Aubry et Lionel Jospin, pour dire les choses. Et donc, on revient sur cette connerie. Ouais. Voilà, on s'est trompé, ça arrive de se tromper. On revient dessus, on dit, en fait, ça marche pas, ça désorganise tout.
Non, mais
tout,
attends, Madame Binet, t'as ton tournant, là.
Mais Madame Binet ne représente personne. Madame Binet se représente à elle-même.
Elle peut bloquer. Tu vas voir ce qui va se celui qui va dire ça. S'il y en a un qui est lui qui dit ça.
Et notre ami Bruno Poncet, c'est foutu.
Je pense que si on n'arrive certes pas à débloquer le détroit d'Hormuz, mais je pense quand même que les cortèges de Madame Binet, avec trois cégétistes fatigués, et trois bobos et trois profs au chômage, on arrivera à les débloquer.
Mais regarde,
quand même.
Regarde, la seule.
Moi, je vais te dire, je veux bien y aller moi-même. Débloquer les cortèges de Madame Binet. Je suis sûr que j'aurai du monde avec moi.
D'accord, toi, mais la seule réforme qu'Emmanuel Macron aura vraiment faite pendant 10 ans, c'est la réforme des retraites qui n'existe plus. Elle a été suspendue. Ah. D'ailleurs, vous remarquez qu'Edouard Philippe n'en parle plus. Donc,
sur pression de la gauche, des syndicats.
Et de ceux qui veulent pas
revenir sur les 35 heures.
Voilà. C'est pas parce que les forces d'inertie parviennent souvent à nous replomber.
Non, mais ce que je voulais dire, c'est que quand tu as donné quelque chose, c'est difficile de le reprendre. Bah, les 35 heures est vécu aujourd'hui comme un acquis social, comme la retraite. Oui, mais pourquoi on a tellement du mal à bouger la retraite?
Je remercie Florian d'avoir été avec nous. Florian,
c'est acquis de haute lutte syndicale.
Voilà. À bientôt pour de nouvelles discussions. Désolé, vous vous êtes déconnecté. On voulait vous saluer. On a Richard dans l'Hérault qui est maître nageur auto-entrepreneur, un fidèle des GG aussi. Bonjour Richard.
Salut les GG, comment ça va?
Ça va Richard, qu'est-ce que vous en dites de la proposition?
J'en ai marre, j'en ai vraiment marre de cet état. Gère rien, c'est du oui, peut-être, et si on faisait, et non, je sais pas, attends, on va peut-être mettre un peu ça, on va enlever ça, non, c'est une recette de cuisine ou quoi, la France, putain, c'est pas dur, mettez les gens au boulot, baissez les TVA, baissez la pression sur les entreprises, et les gars, on va bosser, moi je veux embaucher, hein, y a aucun souci, mais quand j'embauche, ce que je vois, ce que ça me coûte, et ce que je me sors à la fin du mois, c'est moi qui me sors les doigts du cul, hein, l'État, lui, fait que encaisser, hein, donc à un moment, au lieu de parler, de se dire, oui, mais peut-être qu'il faudrait à croire que, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Les gars, les gens, ils ont envie de mettre les mains dans le cambouis.
Non, des auto-entrepreneurs, je suis pas d'accord avec vous, Richard.
Moi, je bosse qu'avec des autos. Hein. Je bosse qu'avec des auto-entreprises. Je vous dis pas les fonctionnaires, je vous dis pas, il y a une certaine partie de la population qui est bien dans ce qu'elle fait. Mais moi, j'ai une génération là qui a envie de bosser et qui me disent, nous, si on peut bosser 40 heures par semaine, on y va. Par contre, ils ont pas envie d'enfiler 30% à l'URSSAF pour avoir des retraites de merde derrière. Moi, je fais des chiffres d'affaires, moi tout seul, à 40 000 l'année, pour gagner, être même pas au minimum vieillesse dans 25 ans, quoi. Donc je me dis, à quoi ça sert que je donne tout cet argent à l'État? Putain, il y a juste à ce qu'à un moment, on baisse la pression, et vous le dites à chaque jour sur votre antenne, qu'ils écoutent les GG un peu de nos politiques, quoi. Copé, en plus, ça fait 1000 ans qu'il est là. Mais enfin, mettez-nous quelqu'un qui a envie de faire bouger tout ça, quoi.
Non, mais j'avoue, là, c'est vrai, Copé, ça fait 1000 ans qu'il est là. Au bout de 1000 ans, si ta proposition, c'est 4 heures de plus à saupoudrer avec une exonération de charge, enfin, je sais pas ce que tu fais encore là. Il faut laisser, c'est vrai que là, il faut penser à laisser la place. Mais tu vois, il y a deux catégories de personnes, là. C'est Richard. Richard, il disait, on n'a pas envie de bosser plus pour rien gagner à la fin. Donc, on s'arrête avant de dépasser un certain seuil. Et t'as des gens,
ça, c'est les indépendants qui réfléchissent comme ça. Voilà.
Moi, je suis d'une autre catégorie, c'est-à-dire que je vais jamais arrêter de bosser plus, je vais jamais chercher à gagner moins, sauf que ces gens-là, à un moment, ils vont se retrouver ailleurs, ils vont se dire écoute, comme moi, dans ma nature, je vais pas optimiser mon temps et je veux vraiment gagner plus et je veux vraiment bosser plus, tu vas te dire, voilà quel pays m'offre ces conditions, c'est tout, c'est ce que tu vas faire. Parce que moi, il est hors de question que j'optimise et que je me dise, j'arrête de gagner plus, juste parce que l'État me garantit pas de la retraite.
Richard,
tu vois.
Je vous remercie d'avoir été avec nous, Richard, et c'est vous qui aurez conclu notre discussion. Bonne journée, Richard, à bientôt.
Bonne journée à tous, merci.
À bientôt dans les GG. Alors, la question qui a été posée sur les réseaux sociaux, c'est prêt à travailler une demi-heure en plus par semaine? Oui ou non? Vous mettez non à 70%.
Oui, mais non. Voilà, tu vois, si Richard est exonéré de charge, si Richard est élu, il trouvera pas ses salariés. Moi,
est-ce que c'est une bonne idée? C'est ça la question. Les gens disent que c'est une mauvaise idée, mais ça veut pas dire qu'ils veulent pas bosser plus. C'est qu'ils soutiennent pas cette idée-là, cette
formule-là. On va attaquer la dernière heure des grandes gueules avec un autre sujet de discussion aussi. Bistrot, café. Est-ce qu'à votre avis, la restauration traditionnelle est menacée par la croustimania? Est-ce que ça devient ringard, les bistrots et les cafés? Mais juste avant, là, dans 5 minutes, on aura un invité avec nous, Sébastien Chenu, le vice-président du Rassemblement National et vice-président de l'Assemblée Nationale. Allez, à tout de suite avec les grandes gueules sur RMC et RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.